Le journal Xavier Demesny, bonsoir.
Bonsoir. Plus rien n'arrête les talibans aux portes de Kaboul et aux portes du pouvoir désormais en Afghanistan. La capitale est encerclée, l'armée américaine sécurise l'aéroport où se sont réfugiées les ambassades occidentales, dont celle de la France. L'évacuation des ressortissants se poursuit. Nous allons consacrer une large page à cette situation en début de journal. Coup de force militaire des islamistes face à la déroute de l'armée afghane et au retrait précipité des Américains. Washington se défend de partir sur un échec. Le bilan s'allonge dit d'heure en heure en Haïti, 724 morts désormais, 2800 blessés, nous serons sur place également. À la une aussi ce soir, le pass sanitaire, fin de la tolérance après une semaine de souplesse sur son application étendue, le retour des pèlerins à Lourdes pour l'Assomption et un conseil cinéma pour cette semaine. Le décès d'un joueur légendaire de football, l'allemand Gerd Müller, Der Bomber, l'un des meilleurs buteurs au monde, rappelle un ancien de Saint-Etienne, Hervé Revelli.
Il se posait pas de questions, il fuinait, on l'appelait la fuine, parce que même par terre, il était dangereux. Tout ce qui traînait dans les 18 mètres, c'était danger pour l'équipe adverse.
Et puis le retour du public au Vélodrome, la ferveur marseillaise retrouvée ce soir, clôture de la deuxième journée de Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux. La météo à venir, un temps toujours caniculaire dans le sud-est, ça se rafraîchit sur le reste du pays. Et puis vos rendez-vous du dimanche soir, le goût de nos mères, la chronique d'Eva Béton et les petits bateaux à 19h30.
Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 12 ans et je voudrais savoir si c'est vrai qu'on ne connaît pas l'origine de la langue basque. Merci de me répondre.
Très bonne question. La réponse tout à l'heure avec Noël Bréham.
France Inter.
Il n'y a donc plus d'obstacle à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Le président Ashraf Ghani, dont il demandait le départ, aurait quitté le pays. Les islamistes contrôlent toutes les villes d'importance et sont aux portes de Kaboul, capitale dans laquelle ils auraient pénétré en cours de journée sans commettre de violence, a priori, comme le raconte ce franco-afghan qui attend de pouvoir rentrer dans l'Hexagone, contacté par Valérie Crova.
On n'habite pas loin du palais présidentiel, on est à 2 km de vol de Vaso. Et on voyait des gens courir en allant vers chez eux, en disant que les talibans sont rentrés. Au centre-ville, on a vu des motos avec les drapeaux talibans qui sont rentrés, après ils ont disparu. Il y en a qui sont rentrés dans les parcs aussi, on fait des photos, ils sont repartis. Ce matin, les écoles, les banques, tout ça était ouvert jusqu'à 11h, 10h30. Après, il y a eu un rumeur que les talibans vont rentrer à Kaboul depuis le nord. Ils ont fermé toutes les écoles. Ma belle-sœur, qui était à l'université aussi, ils l'ont congédié. Après, ils ont dit, vous devez rentrer chez vous. La population, ils ont peur des talibans. Ça, je le cache pas. Personne ne sait où on va et on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures ou demain.
Un témoignage à Kaboul, depuis Kaboul ce soir sur France Inter. Vive inquiétude des habitants. Et bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir.
Branle-bas de combat diplomatique. Paris annonce le déploiement de renforts militaires et de moyens aériens aux Émirats. Conseil de défense demain à l'Élysée. Plusieurs ambassades, dont celle de la France, se déplacent à l'aéroport de Kaboul, encore sécurisé par les Américains, et organisent donc en urgence le rapatriement des ressortissants.
Oui, la France, qui a déjà rapatrié l'essentiel de ses effectifs, vient d'annoncer le regroupement de son personnel diplomatique à l'aéroport. L'Élysée indique tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des Français encore sur place. Une priorité absolue, dit Emmanuel Macron. Paris annonce l'envoi de renforts militaires aux Émirats Arabes Unis pour faciliter le départ de ses ressortissants. D'autres ambassades ont transféré l'ensemble de leurs effectifs vers la zone aéroportuaire où les États-Unis regroupent leurs employés depuis quelques heures avec des hélicoptères qui forment un pont aérien. Ce soir, l'ambassade américaine parle d'une dégradation de la situation sécuritaire sur l'aéroport où des tirs auraient été signalés. L'OTAN va contribuer à sécuriser l'aéroport pour coordonner les évacuations. Au milieu de cette débâcle, l'Union européenne dit travailler de manière très urgente pour mettre à l'abri des représailles son personnel afghan. La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité et à Londres, Boris Johnson convoque une réunion de crise. Le Parlement britannique, lui, se réunira mercredi.
Bertrand, ce soir, le président Ashraf Ghani aurait quitté le pays, on le disait. Ça ne laisse plus vraiment de place au doute sur la prise de pouvoir des talibans.
En effet, si elle est confirmée, la fuite du président afghan met un terme à 7 années de pouvoir, marquées par l'appui des Occidentaux, en particulier des États-Unis, qui soutenaient, faute de mieux et avec des milliards de dollars, un régime corrompu et incapable de faire reculer les talibans. Jusqu'à ces dernières heures, Ashraf Ghani a tenté de gagner du temps, appelant contre toute vraisemblance à une remobilisation de l'armée, évoquant un improbable dialogue politique et des consultations avec des pays étrangers. Ce matin encore, le président afghan demandait aux forces de sécurité de faire régner l'ordre dans un pays devenu incontrôlable. Le départ d'Ashraf Ghani était l'une des exigences des talibans. Plus rien ne semble donc s'opposer à leur prise du pouvoir au moment où ils le décideront. L'émirat islamique dont ils se réclament est prêt à se mettre en place.
Coup de force militaire donc de la part des talibans qui ont repris le contrôle en à peine 10 jours face à la déroute de l'armée afghane et ce, 20 ans après avoir été chassé du pouvoir. Progression fulgurante qui a pris tout le monde de court, l'armée américaine en premier lieu, qui se retire depuis le printemps. Ce retrait devait être achevé fin août, dans 2 semaines normalement. Départ précipité donc et conclusion embarrassante de ce conflit pour les États-Unis, Loïc Loury.
Ceci n'est pas Saigon, affirmait ce matin Anthony Blinken, interrogé par CNN. Le secrétaire d'État rejette la comparaison avec le départ en catastrophe des Américains du Vietnam. Le chef de la diplomatie américaine le répète, nous sommes allés en Afghanistan avec une mission et cette mission, dit-il, a été remplie. Nous avons rendu justice à ceux qui nous ont attaqués. Nous avons fait en sorte que l'Afghanistan ne devienne pas une base arrière. Nous avons réussi il y a bien longtemps d'ailleurs. Rester ici pour 1 an, 5 ans, 10 ans de plus, ce n'est pas dans notre intérêt. Des mots employés également hier par Joe Biden, mais qui masquent mal l'humiliation subie actuellement, les Américains forcés de précipiter leur départ après 20 ans de guerre et 2000 milliards de dollars dépensés. Ce week-end, des milliers de soldats ont dû être remobilisés pour sécuriser les évacuations à l'aéroport de Kaboul. À l'ambassade, l'ordre a aussi été donné de détruire les documents sensibles et les symboles des drapeaux, par exemple, qui pourraient servir à des fins de propagande. Aujourd'hui, Washington va plus loin en transférant les personnels restants à l'aéroport. Impensable il y a encore un mois lorsque Joe Biden assurait que la prise totale du pays par les talibans était hautement improbable.
Les talibans passent de reprendre le pouvoir en Afghanistan, les ambassades déplacées à l'aéroport de Kaboul, l'évacuation des ressortissants occidentaux. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions sur France Inter. Autre grand titre de l'actualité internationale ce soir, le bilan du séisme survenu hier en Haïti. 724 morts selon les derniers chiffres, 2800 blessés au moins. Amélie Baron est la correspondante de France Inter et RFI. Elle a rejoint dans la journée la ville des Cayes, tout près de l'épicentre du séisme.
Ici, dans la troisième ville d'Haïti, c'est une véritable course contre la montre qui se livre, et cela depuis maintenant plus de 24 heures. Des engins lourds sont en action pour tenter de sortir peut-être des possibles survivants, des dalles de béton. Des personnes par centaines sont encore portées disparues devant des bâtiments, des maisons, sinon individuelles, complètement réduites à l'état de ruine. Et bien des familles attendent, elles aussi, l'aide des secours pour qu'on puisse potentiellement sortir leurs proches. Certains, malheureusement, savent que leurs frères, leurs sœurs ou leurs amis sont décédés sous les décombres. Aussi, actuellement au CAI, la gestion de l'aide médicale s'améliore parce qu'il y a eu du renfort d'amener à l'hôpital général, à l'hôpital des CAI depuis Port-au-Prince. 45 internes en médecine sont venus de la capitale pour donner renfort dans la ville des CAI. Mais le grand défi, comme les gens ne veulent pas encore entrer dans les bâtiments ce soir ou dormir, alors que potentiellement il pourrait y avoir début de pluie, car la tempête tropicale Grace s'approche d'Haïti.
Amélie Baron depuis Haïti pour France Inter. Pendant ce temps, l'aide internationale s'organise. De nombreux pays voisins, dont les États-Unis, ont proposé leur aide. Après l'Algérie, la Grèce ou la Turquie, le Maroc est à son tour touché par les incendies. Les pompiers luttent contre des feux de forêt dans le nord du pays qui connaît en parallèle des températures extrêmes jusqu'à 49 degrés dans certaines régions du royaume.
France Inter. Xavier Demagny.
19h09 sur Inter. Fini la tolérance pour le pass sanitaire. Après une semaine de souplesse, il est obligatoire dans de très nombreux lieux depuis lundi dernier pour se déplacer en avion, en TGV, les lieux de culture et de loisirs, mais aussi pour aller au bar ou au restaurant. Une règle là pas toujours simple à faire respecter. Résistance volontaire ou non, reportage dans les Bouches-du-Rhône. Stéphane Maggiolini.
Anthony l'avoue, depuis une semaine, ce serveur de Bouc-Bel-Air a du mal à contrôler le pass sanitaire.
Il y a beaucoup
de clients qui s'installent sans forcément nous demander s'il faut le pass ou pas le pass.
À la brasserie de l'hôtel de ville, on fait alors preuve de tolérance. Arlette en profite, justement.
Tout à l'heure, on nous a renvoyé d'un restaurant. Interdiction d'entrée, parce qu'on n'a pas le pass.
Voilà. Et là, vous avez demandé au serveur, justement, possible, c'est pas possible.
Oui, il nous a dit que c'était toléré.
Mais dès ce lundi, fini les faveurs, ça sera pass obligatoire, promet Anthony. Et ça pose des soucis aux habitués de la brasserie.
C'est compliqué, dans le sens aussi où les trois quarts ne veulent pas se faire vacciner. Et ils nous disent tout simplement, à partir de lundi, on ne sera plus là. On va perdre toute cette clientèle-là pendant le temps du pass sanitaire ou le temps qu'ils se fassent vacciner. Quoi.
À quelques kilomètres de là, un gérant de bar m'affirme qu'il continuera à ne pas demander le pass à sa clientèle. Plus de la moitié sont des habitués. Les faire partir serait suicidaire économiquement.
Stéphane Maggiolini, France Bleu Provence. Le pass sanitaire désormais indispensable également dans les grands centres commerciaux de certaines régions, une centaine au total. Les grands magasins parisiens, Galeries Printemps Samaritaine par exemple, mais aussi certains magasins Ikea en Ile-de-France ou les très grandes surfaces dans une quinzaine de départements, ceux de la Côte d'Azur, la Gironde, les Landes ou bien le Rhône. Sur le front du Covid, 73 personnes ont intégré les services de réanimation ces 24 dernières heures, 1852 au total. Ce matin, 6 patients sont arrivés en avion à Paris en provenance de Martinique, transfert effectué pour soulager les services de soins critiques. Est surchargé sur place. 215 000 personnes ont défilé contre le pass sanitaire hier, avec la plus importante des mobilisations dans le Var. 22 000 personnes rien qu'à Toulon. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a signalé des pancartes à la justice, a signalé des pancartes qui contenaient des messages antisémites. Elles ont été brandies dans les cortèges parisiens. Alors qu'à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor, une stèle érigée en hommage à Simone Veil a été vandalisée pour la quatrième fois en moins de 15 jours, recouverte de croix gammées, de tags, d'insultes et d'excréments. Entre les pancartes des manifestations d'antipas et la dégradation de ce monument qui rend hommage à l'ancienne ministre rescapée de la Shoah, c'est le signe qu'il faut agir et vite contre ce climat, cette ambiance pour Mario Stasi, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
Dans ce climat de libération d'une parole haineuse, vous imaginez bien que les antisémites trouvent un terrain tout à fait favorable à l'expression de leur haine. Et donc, c'est toute une politique qu'il faut mettre en œuvre de régulation des réseaux sociaux, de sévérité et célérité de la justice pénale et de réforme législative. Tant que l'on reste aux paroles, il n'y a aucune raison que lorsque le climat devient délétère, la haine ne s'exprime pas. Alors, à la LICRA, nous attachons évidemment une énorme et indispensable importance à l'éducation, à l'intervention dans les lycées et dans les collèges, car il faut savoir que, à côté de cette minorité, mais qui fait mal, cette minorité antisémite, il y a toute une série d'ignorants qui suivent ces ignorants. Eh bien, il faut absolument leur faire comprendre que lorsqu'il y a une pancarte sur laquelle il est écrit « Mais qui ?» et qu'il n'y a que des noms à consonance juive, eh bien, c'est ostensiblement antisémite. Et donc, ça passe par l'éducation. Vous voyez que c'est une politique globale qui dépasse les simples déclarations de principe.
Mario Stasi, le président de la LICRA, interrogé par Delphine Evenou. L'image du week-end à Lourdes, les rues et les sanctuaires de la ville qui fourmille de monde, les pèlerins de retour pour l'Assomption ce 15 août, le jour où les sanctuaires d'ordinaire drainent le plus de monde. 11 000 visiteurs comptabilisés dans la matinée, jusqu'à 9 000 fidèles à la messe de 10 heures. Les malades étaient de retour aussi, privés de visites l'année dernière à cause de l'épidémie. Lourdes retrouve donc ses pèlerins et renaît doucement après la crise du Covid, Fleur Catala.
Dans les allées des sanctuaires, à la sortie des messes, dans les rues, les restaurants, les boutiques, il y avait du monde partout, des grandes retrouvailles pour les pèlerins.
C'est blindé hier, ça prie beaucoup, ça chante.
Il y a beaucoup de monde.
J'avais hâte de revenir.
Tout ce temps de confinement et de maladie de Covid, on apprécie être à Lourdes, ça fait plaisir.
Du côté de ceux qui travaillent à Lourdes, même satisfaction après des mois à blanc. Fabrizio tient un restaurant dans la ville. Ce week-end, il a fait 200 à 300 couverts par jour.
On a fait un bon week-end. Il y a beaucoup de fréquentations, il y a beaucoup de jeunes. On a bien travaillé. On espérait que le mois de septembre, ça marche bien.
Alors si ce 15 août est une réussite par rapport à l'année dernière, il manque quand même des pèlerins, beaucoup plus nombreux normalement hors Covid. Et ça désole Marie-France, qui tient une boutique tout près du sanctuaire.
Nos pèlerins nous manquent. Et non, là, franchement, Lourdes commence à repartir, mais il nous tarde l'année prochaine. Hein, voilà. On fait ce qu'on peut, on est là, on est ouvert, on essaie de donner un semblant de vie à notre ville. Parce que bon, pour les gens qui ont fait l'effort de venir, il faut quand même que nous restions ouverts. faire.
Il y a du monde donc, mais pas assez encore, surtout pour les hôtels. Beaucoup sont restés fermés, rideaux tirés dans les rues du centre-ville.
Flore Catala de France Bleu, Béarn Bigorre, 19h15. Il portait un surnom plus qu'explicite, Gerd Müller, Der Bomber, est mort, légendaire attaquant, sans doute l'un des meilleurs buteurs de toute l'histoire du foot, qui bombardait donc les cages de ses adversaires dans les années 70 avec la sélection allemande, la Mannschaft ou le Bayern Munich. Ballon d'or en 70, champion d'Europe en 72, champion du monde en 74. Il était aujourd'hui atteint de la maladie d'Alzheimer et avait 75 ans. Bonsoir Alexandre Berthaud.
Bonsoir.
C'était un footballeur atypique.
Physiquement déjà, Gerd Müller, 1m76 seulement, trapu, des énormes cuisses, était loin du prototype de l'avant-centre moderne en 64. Quand il arrive au Bayern, son entraîneur l'appelle d'ailleurs le culturiste ou le petit gros. Résultat, 514 buts sous le maillot du club en 15 ans, 3 Coupes d'Europe au palmarès. Hervé Revelli, attaquant de l'AS Saint-Etienne et de l'équipe de France à l'époque.
Il se posait pas de questions, il fuinait, on l'appelait la fuine, parce que même par terre, il était dangereux. Tout ce qui traînait dans les 18 mètres, c'était danger pour l'équipe.
Gerd Müller, pas comme les autres non plus, dans la tête après sa carrière, il devient dépressif, alcoolique, il tombe même dans le coma, une psychologie fragile qu'il traînait déjà en tant que joueur, dit Sophie Serbini, elle est journaliste spécialiste du football allemand.
Il avait déjà des problèmes durant sa carrière, mais qui forcément étaient un peu mis de côté parce qu'il était tellement fort. Il était très timide, quand il était jeune, il aurait dû aller à Munich 1860 et il n'y est pas allé parce qu'il avait peur de ne pas s'imposer. Et c'est pour ça qu'il est allé au Bayern Munich. Donc déjà, ça détonnait quand même par rapport à cette génération-là. C'était voilà quelqu'un de plus introverti, moins sûr de lui, hormis quand il était sur le terrain.
Moins médiatique qu'un Beckenbauer, Gerd Müller n'en était pas moins populaire. Il a toujours laissé son palmarès parler pour lui.
Le premier jour du reste de la vie sans Messi pour le FC Barcelone. Première journée de championnat espagnol. Le Barça reçoit ce soir les Basques de la Real Sociedad à 20h avec Antoine Griezmann sur le terrain qui tentera de faire oublier le départ de l'Argentin maintenant au PSG. En France, le Vélodrome va retrouver une ferveur oubliée ce soir. Match de clôture de la deuxième journée de Ligue 1 de foot. Marseille accueille les Girondins de Bordeaux. Coup d'envoi dans à peu près 1h30. Bonsoir Alexandre Vaud.
Bonsoir Xavier.
Le stade est bien rempli ce soir. Longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Retour dans les tribunes pour près de 50 000 supporters.
Oui, c'est la plus grosse affluence dans un stade en France depuis le retour du public, vous le disiez. 50 000 personnes autorisées ce soir pour une capacité totale de 67 000 personnes au Vélodrome. Vous l'entendez, l'ambiance est déjà bouillante derrière moi. Des chants accompagnés de pétards, de fumigènes, d'effluves, d'alcool dans une forêt de maillots blancs et de tentes installées sur les trottoirs autour du stade pour se faire tester afin de pouvoir rentrer. Vous le savez, c'est la condition sine qua non car l'OM a préparé avec la préfecture et les groupes de supporters ce grand retour. Tour au stade ce soir. Pour faciliter l'accès aux tribunes, les portes ont ouvert plus tôt que d'habitude, dès 18h15, soit 2h30 avant le coup d'envoi. Le dispositif d'accueil a été aussi étoffé pour contrôler ces fameux passes sanitaires et le port du masque. Un an et demi que les supporters marseillais attendent ce moment. Franchement, vous l'entendez, c'est chaud. Désormais, le volcan marseillais est prêt à entrer en éruption.
Alexandre Vaud, en direct du stade Vélodrome. Bon match à vous. Paris n'est plus leader pour l'instant de la Ligue 1. C'est Angers qui en prend provisoirement la tête après sa victoire sur Lyon, 3-0. Nul entre Reims et Montpellier, 3 partout cet après-midi, mais aussi entre Brest et Rennes, 1 partout. Clermont s'impose face à 3 dans le duel des promus. Et ça vient de se terminer. Lens, Saint-Etienne se quitte sur un nul, 2 partout. Le sport en bref, déception pour le Français Arnaud Démare, le Français de la Groupama FDJ qui manque son sprint sur la deuxième étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne. C'est le Slovène Primoz Roglic qui est leader de la course. Le Français Fabio Quartararo a terminé lui 7e du Grand Prix d'Autriche aujourd'hui, mais il augmente son avance au classement général de MotoGP. Fin de course compliquée avec de fortes pluies. Jamais un Français n'a pour l'instant remporté ce championnat. Et puis Pauline Ferrand-Prévot conserve son titre de championne d'Europe de VTT, 2 semaines et demie après son échec aux Jeux Olympiques de Tokyo. Dans 2 semaines, elle devra défendre son titre mondial. C'est un loisir qui a le vent en poupe en ces temps de Covid. Pas cher, pas loin et vite dépaysant. La randonnée compte de plus en plus d'adeptes en France, fréquentation importante qui entraîne parfois de mauvais comportements, bivouac dans des zones interdites, déchets laissés sur place. Dans le parc régional des Monts d'Ardèche, tout près d'Aubenas, les accompagnateurs en montagne vont à la rencontre des marcheurs pour leur rappeler les règles de bonne conduite dans la nature. David Valverde.
Oui, car ce qu'on vient chercher au Mont Mézin, c'est la vue fantastique entre la Haute-Loire et l'Ardèche, le bon air sans doute aussi, mais il n'y a pas que ça pour Cédric.
On n'a pas conscience, mais on voit que c'est joli, c'est vert, il y a des papillons. On n'est pas souvent sensibilisé au fait qu'il y a des choses très rares, donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme ça qui nous le rappellent.
Et ça, c'est le travail en ce 15 août de Sébastien Michel, chargé de sensibiliser le public sur place.
La problématique d'ensemble, c'est comment accueillir du public important, tout en essayant de préserver la ressource, le milieu.
Des dizaines d'espèces d'animaux, 650 essences de plantes au kilomètre carré et un sommet comme on n'en trouve pas normalement dans notre région.
Des parterres de landes subalpines qu'on retrouve quasiment pas à ces latitudes-là, quoi, en tout cas.
Tout ça, il faut le préserver, rester sur les sentiers, ne pas cueillir les fleurs, ne pas bivouaquer, planter une tente au sommet pour y passer la nuit, c'est interdit. Pourtant, hier, Sébastien Michel a dénombré une vingtaine de campeurs.
C'est pas ce qui va véritablement changer la vie du site, mais encore une fois, multiplié par le nombre de journées, le nombre de personnes, ça crée un impact.
Chaque année, 100 000 personnes arpentent les chemins du Mont Mézin. Ils étaient autour de 2 000, rien que pour la journée du 15 août.
David Valverde, France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Enfin, un conseil ciné pour terminer. Ce qui reste de la réalisatrice allemande Anne-Zora Berached, le terrorisme vu à travers une histoire d'amour, de la rencontre entre Saïd et Asli, en passant par leur mariage jusqu'à la radicalisation de Saïd. Un sujet délicat pourtant traité avec beaucoup de sensibilité, Alexis Demeyer.
Une douce romance dont l'un des protagonistes est un apprenti djihadiste. Voilà le pari de Ce qui reste, un film qui parvient à rendre digeste cet audacieux mélange des genres. Saïd, un Libanais qui fait ses études en Allemagne, tombe amoureux d'Asli d'origine turque. Malgré le refus de la famille d'Asli, le couple se marie et envisage d'avoir des enfants.
Oh, Clan Tower, this is United 135 requesting permission for takeoff. Here we go. And 3, 2, 1, left off.
Mais Asli, cette brillante étudiante en médecine, constate de plus en plus de signes de radicalisation chez son mari. Saïd va d'ailleurs disparaître de longs mois pour un mystérieux voyage au Yémen. Porté par un duo d'acteurs de très haut niveau, Ce qui reste parle avec autant de justesse des relations amoureuses que du poids du patriarcat, en passant bien sûr par l'embrigadement dans un groupe terroriste. La mise en scène d'Anne-Zora Berached propose de très belles choses, même si la fin, pourtant poignante, est un peu moins bien exécutée.
Ce qui reste à voir au cinéma, conseil du service culture d'Inter ce soir.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Il va faire un peu moins chaud demain, Jean-Michel Golinski.
Une journée de lundi beaucoup plus fraîche sur l'ensemble du pays. La plupart des valeurs vont passer sous les normales avec 20 degrés l'après-midi près de la Manche, 22 à Reims, 23 à Rennes, 24 en moyenne du centre Val-de-Loire au bassin parisien, du Grand Est à l'Auvergne, Rhône-Alpes et du Limousin aux Pyrénées. Le maximum sera de 33 à 35 autour de la Méditerranée. Malgré la baisse des valeurs maximales dans le quart sud-est, on retrouve les 5 mêmes départements maintenus en vigilance orange canicule, principalement en raison des températures encore élevées la nuit. Les bords de la Méditerranée vont conserver un soleil vaillant, en grande partie grâce au Mistral et à la Tramontane proche de 80 km à l'heure. Sur la Corse, les rafales d'ouest seront turbulentes. Si l'après-midi, des trouées s'organisent entre la Manche, les Ardennes et la vallée de la Loire, les pluies matinales de la moitié nord vont gagner vers les Alpes et le Grand Est. Dans le quart sud-ouest, la grisaille a soudé le matin et évoluera très lentement en journée.
Jean-Michel Golinski de Météo France. Les 5 départements concernés par l'alerte canicule sont toujours l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-Maritimes et de Haute-Provence, ainsi que le Var. Un grand merci à la brillante équipe des journaux ce week-end. Lionel Thompson à la rédaction en chef des journaux, assisté ce dimanche de Nicolas Sabat, Stéphane Rousset et Swad Bellani. À la technique ce soir, Arnaud Caillé et Rémi Sistiaga. 19h25 tout l'été à cette heure-ci sur Inter, on retrouve Eva Bétan pour le goût de nos mères, les souvenirs de cuisine, les recettes de famille avec un gâteau ce dimanche soir, celui de la mère de Nathalie Léger, écrivaine et prix du livre Inter 2012.
Maman, je mets le couvert.
Tu veux de la soupe ?
Je veux bien, s'il te plaît.
Vendredi, je crois que je vais nous faire mon île flottante.
Je veux que tu la goûtes, tu me dis si...
Le goût c'est trop bon. De nos mères.
Est-ce que tout le monde a eu de la sauce ?
Oui.
Les légumes aussi ?
Bonjour, c'est fait avec amour. Hein.
Par Eva Bétan.
L'amour.
Le goût de la cuisine maternelle. Mais avant cela, avant la saveur, avant même l'odeur, il y a le nom. Les souvenirs de l'écrivaine Nathalie Léger se réveillent dès l'évocation du nom d'un fameux plat.
Ce mot, c'est qui s'impose, mais qui s'impose toujours au fond. Fondant rablaisien. Le mot me suffit presque. Il coule, il est onctueux et il dit quelque chose de la façon dont mes frères et sœurs et moi, autour de ma mère, on pouvait partager quelque chose d'aimant. Pour moi, c'est le plat de cette espèce d'utopie qui existe toujours quand une mère se retrouve seule avec ses enfants. Il n'y a rien de plus difficile que de se retrouver seule avec ses enfants. Mais pour les enfants, c'est une joie. Le père est parti. La violence, disons, l'autorité, l'espèce de figure énorme qu'il représente, sans parler de leur déchirement. Hein, et c'est pour ça qu'il est parti. Donc, il a quitté la maison, et là, il y a une espèce de je dirais pas de sérénité, n'exagérons pas, mais en tout cas, il y a un calme qui s'installe, et il y a quelque chose autour de la mère qui s'organise. Avec nous, elle était ailleurs, je crois, puis elle était là dans sa peine et dans son désastre, plus qu'amoureux, un désastre d'abandon. Mais elle faisait le fondant rablaisien, je crois qu'elle savait qu'on... l'excitation, la joie que ça nous procurait. Et dans cette cuisine, loin des fastes bourgeois dans lesquels mon père, sans doute, mais elle-même, dans lesquels ce couple s'enfermait, loin de la sonnette où on appelait la bonne, c'est comme ça qu'on appelait ça, pour venir servir ou desservir, enfin bon. Tout ça s'est arrêté du jour au lendemain, au départ de mon père. Et là, on s'est retrouvés dans la cuisine, et c'était bien.
Alors, sans entrer dans les détails de la recette, comment vous le qualifierez ? Qu'est-ce que c'est comme plat ? Ce fondant rablaisien ?
Une masse énorme et aimante, amicale. C'est un gratin. Quand je dis une masse, c'est-à-dire c'est ça ce qui fait ça, sa force. Ah, oui, c'est ça le mot. Qui console, qui apaise et qui console.
Nathalie Léger a mis de sa mère dans certaines de ses héroïnes, et elle a fait plus. Elle a dit à travers la fiction ce que sa mère n'arrivait pas à dire, ainsi de son livre La Robe Blanche.
Je le lui ai lu, et on était dans ce canapé chez elle, ce canapé dont je parle dans le livre d'ailleurs, et là je me retrouvais à lui lire ce livre.
La Robe Blanche.
La Robe Blanche. Un mois avant qu'il ne paraisse, attention, concentration, quelque chose commence. Et tout au long de la lecture, elle ponctuait son écoute par de très rapides commentaires qui me montraient combien on était là ensemble et c'était important. Et quand j'ai fini la lecture, elle m'a... On était très émus l'une et l'autre. Et elle m'a simplement dit « Tu m'as sauvée ». Et elle est morte quelques semaines après.
L'écrivaine Nathalie Léger au micro d'Eva Bétan, le souvenir de ses recettes dans Le goût de nos mères chaque semaine dans ce journal de 19h et puis un podcast à retrouver sur franceinter.fr et un livre coédité par Stock et France Inter.